Pour le message de ce matin, donc j'aimerais vous inviter à ouvrir vos Bibles dans l'épître de Jacques. Donc vous voyez, c'est un peu dans la continuité de ce que je vous avais annoncé la dernière fois. Épître de Jacques, on restera sur le chapitre 1er. Nous lirons successivement les versets 2 à 4 et ensuite les versets 12 à 17. Jacques 1, 2, 4, 12, 17. Mes frères, regardez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés. Sachant que l'épreuve de votre foi produit la patience. Mais il faut que la patience accomplisse parfaitement son œuvre afin que vous soyez parfaits et accomplis sans faillir en rien. Verset 12. Heureux l'homme qui supporte patiemment la tentation, car après avoir été éprouvé, il recevra la couronne de vie que le Seigneur a promise à ceux qu'il aime. Que personne, lorsqu'il est tenté, ne dise « C'est Dieu qui me tente », car Dieu ne peut être tenté par le mal et il ne tente lui-même personne. Mais chacun est tenté quand il est attiré et amorcé par sa propre convoitise. Puis, la convoitise, lorsqu'elle a conçu, enfante le péché, et le péché étant consommé, produit la mort. Ne vous y trompez pas. Donc là, peut-être une petite coquille. Ne vous y trompez pas, mes frères bien-aimés. Toute grâce excellente et tout don parfait descendent d'en haut, du Père des Lumières, chez lequel il n'y a ni changement, ni ombre de variation. Alors, j'ai intitulé mon message ce matin « Le croyant face à l'épreuve ». Est-ce un hasard ? Nous sommes un peu en rang dispersé, beaucoup sont éprouvés, mais Dieu m'a mis à cœur ce matin de parler de l'épreuve. Le croyant face à l'épreuve. Alors, j'ai regardé très rapidement dans le Robert quelques définitions. C'est quoi l'épreuve ? Donc, il y en a plusieurs de définitions. J'en ai retenu deux. Donc, la première, c'est que l'épreuve, c'est ce qui permet de juger la valeur de quelque chose, donc une idée, une qualité, une personne, une œuvre. Moi, le premier, bien placé pour faire passer des épreuves. Ensuite, il est dit de l'épreuve, c'est une souffrance, malheur, difficulté qui atteint directement quelqu'un. Exemple, une vie remplie d'épreuves. Nous verrons par la suite qu'effectivement, c'est deux définitions, donc de l'épreuve, corroborent bien ce que l'Écriture entend également de l'épreuve. Souffrance, difficulté, émaillent le quotidien de l'homme de ces siècles et finissent par se cristalliser en de grosses revendications. Ça, vous en avez eu l'exemple ce jeudi. Grosse manif, tout le monde dans les rues. J'ai noté qu'en tant que croyants, nous vivons les mêmes pressions et contraintes sociales, mais comment faire face sans se décourager? Souvenons-nous du contexte de l'écriture de l'épître de Jacques, que j'avais décliné la dernière fois. Donc nous avions vu que c'était la persécution, suivie de la dispersion des chrétiens juifs, après le martyre d'Étienne, donc la diaspora juive qui s'est retrouvée un peu disséminée dans le monde. Seuls les apôtres étaient restés à Jérusalem, et d'ailleurs c'est ce que le Seigneur leur avait dit. Et alors, les destinataires donc de la lettre étaient les 12 tribus de la diaspora juive. On comprend le contexte. Persécutés, sont partis de leur pays et très certainement confrontés à des soucis de recherche d'emploi, des soucis matériels légitimes, le logement, la maladie et tant d'autres épreuves. Et alors, comme on l'a vu la dernière fois, le message central de Jacques, c'est que la foi authentique se montre active, en action. Et donc, principalement, il s'agissait pour Jacques d'encourager la diaspora juive à ne pas baisser les bras malgré l'opposition, malgré les afflictions, les souffrances, etc. Comment ont-ils fait face aux diverses épreuves, dont celle de la persécution ? Cela relève du contexte. Alors, après le thème de la sagesse que nous avons vu ensemble la dernière fois, nous regarderons celui de l'épreuve ce matin, qui est justement le premier terrain où la foi se montre particulièrement active. Donc, voyez-vous, c'est un peu ce que Dieu m'a mis à cœur de partager avec vous. Être dans une attitude de foi active. Nous sommes un petit troupeau et nous avons besoin d'être dans l'action. Jacques, dans cet épître, commence d'emblée par donner trois réalités spirituelles en ce qui concerne l'épreuve. Et c'est ce que nous allons examiner dans la première partie de mon message. Les trois vérités spirituelles concernant l'épreuve. La première, c'est que le croyant peut et doit s'attendre à des épreuves. Ça, c'est la première vérité spirituelle que Jacques nous donne. Le chrétien, le croyant, peut et doit s'attendre à des épreuves. Nous le voyons au verset 2, parce qu'effectivement, l'Éternel ne laisse aucune ambiguïté sur cette question. Verset 2, s'agissant justement des épreuves, vous pouvez être exposé, vous pouvez. Ce n'est pas une option, ce n'est pas une éventualité. Vous allez être exposé à des épreuves. Et on le voit donc ailleurs dans l'Écriture. On va s'y attarder sur quelques exemples. Alors, clairement, l'épreuve n'est pas une option de la vie chrétienne. Elle est même certaine. D'autres textes de l'Écriture le montrent. Alors, j'ai relevé juste un texte de Paul dans les Actes, chapitre 14, verset 22. Qui dit ceci, « Fortifiant l'esprit des disciples, les exhortant à persévérer dans la foi et disant que c'est par beaucoup de tribulations, en parenthèse des épreuves, qu'il nous faut entrer dans le royaume de Dieu. » Donc, vous voyez, ce n'est pas une option. Qu'il nous faut. Et si vous regardez les textes qui précèdent cet article, on voit combien Paul a été dans des tribulations, lapidé, jeté, laissé pour mort. Et là, c'est ce qu'il dit clairement. Oui, c'est par beaucoup de tribulations qu'il nous faut entrer dans le royaume de Dieu. L'épreuve n'est pas une option. L'Écriture nous l'enseigne clairement. Nous devons nous attendre à affronter des épreuves, mais avons-nous besoin de rechercher des épreuves ? Ça, c'est une question légitime que l'on pourrait se poser. Si l'épreuve n'est pas une option dans notre vie, est-ce que nous devons absolument rechercher des épreuves? La réponse est non, évidemment. Le croyant n'a pas à rechercher des épreuves. Ce n'est pas notre rôle de rechercher des épreuves. Si la sagesse consiste à se conduire avec intelligence, de sorte d'éviter des problèmes inutiles, on ne peut pas tout éviter non plus. Verset 2, vous pouvez être exposé. On peut être exposé. Qu'est-ce que ça veut dire ? Être exposé, ça voudrait dire que nous pouvons tomber sous le coup d'une épreuve, subitement. Ça peut nous arriver. On peut tomber sous le coup d'une épreuve sans avoir à rechercher les épreuves. Et l'Écriture en donne plusieurs exemples. Vous avez la parabole du Seigneur s'agissant du brigand. Quand il a posé la question, qui est celui qui a secouru son prochain entre le Lévite, le sacrificateur, un brigand, ou du moins un homme, un voyageur qui est tombé sous le coup d'un certain nombre de brigands, qui l'ont donné des coups, laissé pour mort. Un sacrificateur, un lévite est passé. Ils n'ont fait aucun cas de cet homme. Il a fallu un samaritain pour s'arrêter. Cet exemple est parlant. Un homme, subitement, est tombé dans un piège, dans un guet-apens, des brigands. Et tant d'autres exemples dans l'Écriture. Job a-t-il recherché des épreuves ? Non plus. Autant d'exemples dans l'Écriture qui nous montrent que le croyant n'a pas à rechercher des épreuves. J'ai noté, souvenons-nous des épreuves endurées par Paul. Dans la deuxième épître aux Corinthiens, des versets 23 à 28, Paul en fait la liste. J'en ai relevé juste quelques points. Souvent en danger de mort. 5 fois, j'ai reçu des Juifs 40 coups moins un. 3 fois, j'ai été battu de verge. 1 fois, j'ai été lapidé. 3 fois, j'ai fait naufrage. J'ai passé 1 jour et 1 nuit dans l'abîme. On peut s'imaginer ce que l'apôtre a vécu. Le cas extrême est celui de Job, ce croyant intègre et droit, dont il est dit qu'il n'y avait personne comme lui sur la terre. Pour autant, nous connaissons l'histoire. Job a tout perdu, sa fortune, ses enfants, sa notoriété, sa santé, exactement. Il a tout perdu. En somme, j'ai noté que, en tant que chrétien authentique, nous ne sommes pas à l'abri de grandes épreuves. Ça, c'est une réalité biblique que Jacques relève ici dans son épître. La troisième vérité spirituelle qu'il relève ici, c'est que le croyant peut vivre des épreuves variées. Verset 2, les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposé. Pour parler familièrement, clairement, ça veut dire que le chrétien peut en baver pour ce qui est des épreuves. C'est la Bible qui le dit. Des épreuves qui peuvent affecter croyants et incroyants. Il n'y a pas d'épreuves ciblées pour les croyants. Les croyants peuvent vivre des épreuves que subissent incroyable. J'ai noté que les différents cas que nous avons vus précédemment corroborent justement l'idée de la variété dans la nature et dans l'intensité des épreuves que le croyant peut vivre. Mais alors, comment vivre l'épreuve? C'est donc le deuxième point de mon message ce matin. Comment vivre les épreuves? Vous en conviendrez, la réponse, elle est pour le moins surprenante. Verset 2, mes frères, regardez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés. Comment concilier souffrance et joie? C'est difficile à comprendre. L'homme naturel ne peut pas comprendre une telle dualité. Souffrance et néanmoins être dans la joie. Est-ce que la foi est un anesthésien de la douleur? On peut se poser des questions. La réponse, elle est plus, pour le coup, très, très étonnante. La Bible, justement, ne nie pas la réalité de la souffrance. Pourquoi? Dès la Genèse, après la chute, donc chapitre 3, au verset 19, il est dit ceci: c'est à la sueur de ton visage que tu mangeras du pain, jusqu'à ce que tu retournes dans la terre, d'où tu as été pris, car tu es poussière et tu retourneras dans la poussière. Dès la Genèse, la Bible ne fait pas l'impasse sur la souffrance. Un livre entier de la Bible parle de la souffrance imméritée. Nous l'avons abordé tout à l'heure. Le livre de Job. Un livre entier qui parle de la souffrance. Alors j'ai tiré un verset, justement du livre de Job, qui dit ceci. L'homme naît pour souffrir comme l'étincelle pour voler. Nous avons un autre livre, le livre des psaumes. Livre de prière, de louange, mais aussi de lamentation. Il est question de la souffrance dans plusieurs livres de l'Écriture. J'ai noté Jésus-Christ, le Fils, Dieu lui-même, a souffert jusqu'à la mort de la croix. Lui le juste qui n'a point péché. Dieu lui-même a connu la souffrance. J'ai tiré ce verset de l'évangile de Luc, au chapitre 22, au verset 44, qui dit ceci, souvenons-nous, hein, dans le jardin de Gethsémané, « Étant en agonie, il priait plus instamment et sa sueur devint comme des grumeaux de sang qui tombaient à terre. » Jésus-Christ, Fils de Dieu, Dieu lui-même. Je me pose cette question légitime, la souffrance dont parle l'Écriture est-elle vaine? Christ a-t-il souffert pour rien? Loin de là. Il y a donc des raisons de croire que la souffrance puisse être une source de joie. Mais comment? Pour se réjouir justement des épreuves, il faut en comprendre l'utilité et y croire. Quelle est l'utilité de la souffrance dont parle la Bible? Sommes-nous prêts aussi à y croire? Le premier point que nous allons aborder, évidemment, c'est l'utilité des épreuves dans la vie terrestre, comme Jacques l'a évoqué dans ses versets. Ça commence par la vie terrestre. Quelle est l'utilité des épreuves dans la vie terrestre? Et que faut-il comprendre et croire? Comprendre, premièrement, qu'en réalité, c'est notre foi qui est mise à l'épreuve. On retrouve la première définition que j'ai tirée du Robert. Quelle est l'utilité? Premièrement, c'est notre foi qui est éprouvée. Et on le voit au verset 3, qui parle de l'épreuve de votre foi. C'est un test. La souffrance est un test de quoi ? De notre confiance en la bonté et aux promesses de Dieu. C'est un test. Dieu nous teste. Pourquoi ? Parce que nous comprenons difficilement pourquoi Dieu est amour et permet certaines souffrances. Ça, on l'entend à longueur de journée. Mais oui, mais regardez autour de nous. Il y a de la misère, il y a de la souffrance, mais on dit que Dieu est amour. Ça paraît contradictoire. N'est-ce pas ? Aussi, on l'entend, pourquoi Dieu tarde à accomplir ses promesses ? En nous secourant. Il y a des promesses, pourquoi tarde-t-il ? Alors, de deux choses l'une. Ou, dans ce cas, nous abandonnons la foi en découvrant ce dont Dieu nous avertit, à savoir que on n'est pas à l'abri des ennuis en étant croyant. Ça, Dieu nous en avertit, on n'est pas à l'abri. Aussi, qu'être chrétien, ça attire même des ennuis. Voyez-vous ? Ou alors, nous persévérons dans la foi en démontrant ainsi l'authenticité de notre croyance en Dieu. C'est une réalité. L'homme a du mal à réaliser que le péché est entré dans le monde, s'il y a la souffrance, pour arriver à incriminer Dieu. C'est d'abord l'homme qui est responsable. Le péché est entré dans le monde. Autrement dit, toute épreuve est donc une occasion de faire nos preuves et d'avoir l'assurance que nous sommes véritablement enfants de Dieu. Avoir cette assurance. Comment est-ce que je sais que je suis véritablement un enfant de Dieu ? La Bible est très claire là-dessus. Les enfants illégitimes ne sont pas les enfants légitimes subissent châtiment et donc les enfants légitimes ne sont pas exempts de châtiment. La Bible le dit clairement. Si vous êtes fils, si vous êtes aimé, vous subirez le châtiment. J'ai noté que la persévérance dans la foi est l'un des signes les plus importants de l'authenticité de la foi qui sauve. Très important, la foi authentique en action, la foi qui sauve. Alors, on voit ensemble une première raison d'accueillir les épreuves avec joie. C'est un test pour que nous réalisions que nous sommes enfants de Dieu. Un test d'authenticité de la foi en action, la foi qui sauve. Deuxièmement, pourquoi ? Il s'agit de comprendre que l'épreuve produit la patience. Pourquoi nous avons des épreuves ? C'est pour générer de la patience. Verset 3, l'épreuve de votre foi produit la patience. Patience, ici, est synonyme d'endurance, c'est synonyme de persévérance. Les épreuves donnent l'occasion d'exercer notre foi et cet exercice la fortifie. Pourquoi ? En vue d'épreuves futures. C'est un peu ce que font les sportifs de haut niveau. Ils entraînent leur corps pour passer différentes épreuves, différentes étapes. C'est exactement la pédagogie du Seigneur, l'école du Seigneur. Tout est graduel. Aujourd'hui, on veut tout instantanément. Mais non, avec le Seigneur, ça ne marche pas comme ça. La patience, l'école de la patience. Voilà, Une deuxième cause, une cause supplémentaire, d'accepter l'épreuve avec joie. On comprend pourquoi. C'est pour exercer notre foi. Parce que notre course terrestre, elle est bien longue. Il faut donc s'exercer. Et ça passe par là. Troisième question, compréhension. Savoir que la persévérance conduit graduellement à la maturité spirituelle. L'école du Seigneur. On progresse. Verset 4. Afin que vous soyez parfaits et accomplis sans faillir en rien. Bien sûr, ça ne veut pas dire que durant notre vie, nous serons accomplis parfaitement à l'image de Dieu. Cela sera fait quand le Seigneur lui-même viendra, mais ça reste le plan de Dieu qui veut que nous ressemblions à son Fils. Que vous soyez parfaits et accomplis sans faillir en rien. Alors, ressemblez de plus en plus à l'image de Jésus-Christ en portant du fruit à la gloire de Dieu. Voilà le plan. Porter du fruit à la gloire de Dieu. Une troisième raison d'accueillir les épreuves avec joie. La persévérance en vue d'acquérir progressivement la maturité spirituelle. Deuxième utilité qu'il faut comprendre, cette fois-ci on change d'échelle, donc on est dans les lieux célestes. Que faut-il comprendre? Que faut-il croire? Qu'est-ce qui nous réserve dans les cieux? Comprendre que celui qui aura persévéré sera récompensé au ciel. Voilà le but des récompenses. Récompensé au ciel. Verset 12. Heureux l'homme qui supporte, comment? Patiemment la tentation. Car après avoir été éprouvé, il recevra la couronne de vie que le Seigneur a promise à ceux pas qui l'aiment, qui l'aiment. Dans ce passage, on peut se poser une question légitime, à savoir, par tentation, faut-il entendre épreuve? Parce que l'Écriture en parle souvent. Tentation, épreuve. Qu'est-ce que Jacques veut nous enseigner ici? Parce que le Nouveau Testament utilise le même mot pour épreuve et pour tentation, justement parce que toute épreuve comporte une tentation de quoi? Premièrement, de réagir mal en nous décourageant, l'apitoiement sur soi. On peut réagir mal face à l'épreuve. D'y mettre fin aussi par des moyens que Dieu ne veut pas. Ça, c'est une possibilité, on le voit dans notre pays. Les questions d'éthique pour ce qui est de l'euthanasie. On peut décider de mettre fin à l'épreuve. Il y en a plein d'exemples. Et même rendre Dieu responsable de nos péchés. Comme je l'ai dit d'entrée, c'est le péché qui est entré dans le monde. Avec le péché, les tribulations et pour finir, la mort. Le salaire du péché, c'est la mort. Jacques, justement, nous met en garde contre une telle interprétation. Car, dans les versets 13 à 14, il le rappelle, Dieu ne tente personne, chacun est tenté quand il est attiré et amorcé par sa propre convoitise. Paul parle, en l'occurrence, de la chair, c'est-à-dire le péché qui est en nous. Dieu ne tente personne. Vous ne serez pas tenté au-delà de votre force. On l'a vu avec Job, qu'est-ce qui s'est passé? Dieu a dit à Satan, tu pourras lui faire tout ce que tu veux, mais tu ne toucheras pas à sa vie. Ce sont des réalités spirituelles. J'ai noté que Dieu permet que l'on soit tenté, pour des raisons bien précises, pour nous donner l'occasion de vaincre le péché et ainsi de devenir de plus en plus mûrs et de plus en plus capables d'aider en particulier d'autres croyants dans leurs épreuves. Voilà la raison. Dans ce passage de Jacques, il est aussi question de la couronne de vie. Qu'est-ce que c'est que la couronne de vie qui nous est réservée? La couronne, c'est le privilège de régner avec Christ dans l'éternité. Voilà ce qui nous est réservé. Christ a souffert, mais il est ressuscité, glorifié, assis à la droite du Père, et il intercède pour nous. Et en tant que co-héritier, voici ce que Dieu nous réserve. La couronne, justement là, le mot couronne, en fait, est inspiré des traditions grecques, donc de l'époque, où les athlètes étaient couronnés par une guirlande, en fait, de laurier. Et d'ailleurs, le bac, ça vient de là, le baccalauréat. Couronne de laurier. Alors, c'est le premier diplôme universitaire, mais là, nous, on sera couronnés. Premier diplôme de l'univers céleste auprès des dieux. La couronne. Et donc, le privilège de régner avec Christ dans l'éternité. Et dans l'Apocalypse, chapitre 3, au verset 21, nous lisons ceci. « Celui qui vaincra, je le ferai asseoir avec moi. » Rendez-vous compte, avec Christ, sur mon trône, comme moi, j'ai vaincu et me suis assis avec mon Père sur son trône. Christ a souffert. Nous avons lu un des textes jusqu'à la mort de la croix. Mais il est ressuscité, glorifié, couronné de gloire. Et cette gloire, Christ veut la partager avec nous. Quel plan ! Quel plan ! J'ai noté que si telle est la couronne de vie, elle n'a aucune commune mesure avec nos afflictions du moment. Aucune. Paul, en Romains 8, au verset 18, nous dit ceci. J'estime que les souffrances du temps présent ne sauraient être comparées à la gloire à venir qui sera révélée pour nous. Extraordinaire, la science de Dieu. Paul avait tout compris. Je regarde tout comme de la boue pour gagner Christ. Quel dessein, quelle compréhension de la science de Dieu. Mais c'est par grâce. En 2 Corinthiens 4, versets 17 à 18, il est aussi rappelé, c'est toujours Paul, « Car nos légères afflictions du moment présent produisent pour nous, au-delà de toute mesure, un poids éternel de gloire. » Rendez-vous compte. Ainsi, plus nous aurons tenu bon face à des épreuves, sans céder aux tentations, justement, qui les accompagnaient, plus grande sera notre récompense pendant toute l'éternité. Encore une raison d'être dans la joie. La quatrième. Bien sûr, cela ne veut pas dire que ce sont les œuvres, que ce sont nos œuvres pour le salut. Le salut en Jésus-Christ, il est acquis par pure grâce. Justement, c'est parce que Dieu nous aura fait la grâce de croire en lui, d'avoir la foi, que par son esprit, nous pourrons porter du fruit à sa gloire. Ce qui veut dire que tous les croyants, au-delà de l'intensité de leurs épreuves, seront couronnés de gloire parce que tout n'est pas grâce. Il n'y a aucune place dans l'œuvre humaine. N'est-ce pas merveilleux comme dessein? Tous seront couronnés de gloire. dans l'éternité. Il s'agit des épreuves, mais il y a d'autres aspects de la foi. Ça, on pourrait en parler dans un autre message, où effectivement, ben, il y aura des récompenses pour les uns et les autres. Il y aura une gradation dans les récompenses. Mais pour ce qui est de la couronne, dans ce que nous voyons ici, tous seront couronnés de gloire. Au-delà de la forme, de l'intensité des épreuves que chacun aura à vivre. Alors, pour conclure, j'ai noté que Christ a souffert pour nous. Il a été couronné de gloire par le Père. Si nous sommes fils, nous sommes appelés à souffrir pour Christ. Et la Bible est très claire sur cette question. Vous serez persécutés par le monde, car j'ai été persécuté. Le Seigneur l'a dit lui-même, clairement. Une récompense éternelle attend donc les rachetés, à savoir la couronne de vie. Voilà des raisons pour lesquelles nous devons accueillir l'épreuve avec joie. Donc voici ce que je voulais vous partager ce matin. Et donc que Dieu nous encourage, que Dieu nous fortifie, parce que nous avons en ligne de mire une couronne éternelle de gloire. Que rien ne puisse nous détourner de cet objectif. Voilà, que Dieu bénisse l'enseignement de sa parole.